Amen.
Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toute la création, les cieux, rendent témoignage du Créateur. Et si ensuite nous pensons au décret qui a eu lieu à Strasbourg le 4 septembre, que l'enseignement de la création ne doit pas être enseigné dans les écoles, mais que c'est plutôt l'évolution de Darwin qui doit être enseignée. Cela a été décidé avec beaucoup de voix, voté avec beaucoup de voix, et nous nous demandons alors à combien de temps encore les hommes blasphémeront Dieu et voudront remettre la parole de Dieu en question. Dieu regarde, mais pas pour toujours et plus longtemps. Ensuite, nous avons des salutations de partout que nous avons à remettre, particulièrement du frère Badi, du frère d'Abidjan, des salutations de Libreville, de Kinshasa, des salutations de Bougimaï. Le frère Billet a appelé, docteur Billet, et a dit, frère Franck, nous sommes rassemblés avec 2500 âmes à genoux sous nos, donc, et nous prions pour que Dieu puisse bénir pendant ce week-end. En Afrique, il y a beaucoup de grandes assemblées, et il y en a qui contiennent 3 jusqu'à 4 000 membres. Et nous avons des salutations du Chili, des salutations du frère Graf, des salutations du frère Étienne, des salutations du frère Wallström, des salutations de Melbourne, Australie, oui, des salutations du monde entier. Nous nous réjouissons de ce que Dieu a accordé sa grâce et que nous pouvons être liés les uns avec les autres, liés avec tous. Et nous l'avons dit en répétant que Dieu lui-même a fait en sorte que sa parole, son évangile éternel, atteigne les extrémités de la terre. Et je voudrais apporter un court compte-rendu du voyage missionnaire par l'Afrique, Mozambique, Malawi. Et Dieu, l'Afrique du Sud, Dieu a accordé sa grâce et a eu des chemins merveilleux et nous a conduits de manière merveilleuse. Cette fois-ci, je crois que c'était 12 ou 13 fois, nous avons décollé et atterri avec l'avion. Et les différentes villes, Pretoria, Johannesburg, Port Elizabeth, Kapstadt et Durban ont été inclus dans le voyage, et aussi au Mozambique et aussi à Malawi. Et cette fois-ci, il y avait eu 4 frères qui m'ont accompagné jusqu'à la fin. Il y avait 3 et 4 au commencement, jusqu'au milieu du voyage. Le frère Daniel de Kapstadt, le frère Ngonga de Johannesburg, et le frère Motika de Johannesburg, le frère Malcolm de Durban. Et ensuite, ainsi, à chaque fois, après l'atterrissement à Johannesburg, nous avons eu un chauffeur exceptionnel qui nous apportait à l'aéroport et qui nous ramenait, et notre bien-aimé frère, docteur Lotika, un chef médecin. Dieu a vraiment conduit les choses de manière merveilleuse. Et j'ai rarement eu un si bon chauffeur. Il a conduit vraiment de manière élégante. Peut-être parce qu'il avait la nouvelle Mercedes, le nouveau modèle, je ne le sais pas. Mais nous étions très très satisfait. Et ensuite, nous avons ici toutes les exposés que nous avons fait sortir de l'Internet en ce qui concerne les événements politiques et religieux et tout ce qui se passe actuellement. Déjà, en une seule année, paix au Proche-Orient, les promesses, des promesses sont faites et tout est en train d'aller dans la direction où justement les Écritures vont s'accomplir. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, « Quand ils diront, maintenant règne la paix, et maintenant règne la sûreté, c'est à ce moment-là qu'une ruine soudaine les surprendra. » Et nous avons aussi, n'est-ce pas, appris l'union des Églises et la manière avec laquelle le Vatican, justement, fait connaître sa position d'autorité, sa position de puissance à tous. Et je vais vous lire tel que c'est écrit dans 46 paragraphes, ce document de Brazema a été écrit pour l'union des Églises par Rome et par l'Église orthodoxe. Et ensuite, il s'agit du primat et il s'agit, laissons toutes ces choses à côté. Cela va arriver tel que l'Écriture l'a prédit. La fin des temps est là. Le dernier empire mondial apparaît, et je m'excuse, mais c'est ainsi que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 17. La prostituée et donc la puissance spirituelle allait reine et dirige la puissance politique. Personne n'a besoin encore d'interpréter. On a seulement besoin d'aller avec ce verset dans Daniel, dans le prophète Daniel, d'aller dans l'Apocalypse. Et c'est ainsi qu'on a une vue claire et vraie de ce qui se passe réellement maintenant. Le prophète Daniel l'a annoncé à l'avance dans le chapitre 2 et le chapitre 7. Il a vu à l'avance cet empire mondial et il voulait en fait recevoir plus d'informations et il les a aussi reçues. Et nous avons aussi aujourd'hui les mêmes informations dans la parole de Dieu qu'il a reçue à l'époque par la grâce de Dieu. Nous avons reconnu le temps dans lequel nous vivons et nous avons reconnu aussi dans leur accomplissement les prophéties bibliques pour notre époque. Avec Israël, avec tout ce qui se passe au Proche-Orient et dans la région de la Méditerranée, le temps de la fin est là et la venue du Seigneur est proche. Heureux tous ceux qui maintenant, par la grâce de Dieu, expérimentent leur préparation et prête l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y a deux choses. Il y a la prédication de l'Évangile qui est apportée comme un témoignage à tous les peuples et les langues. Et ensuite, il y a le message divin de l'appel à sortir et de la préparation adressée à tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse du Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons toujours de nouveau le même sujet, le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, le retour de l'époux céleste pour prendre auprès de lui son épouse céleste. Et c'est ainsi que le Seigneur nous a révélé ses mystères et nous a envoyé un message et un messager et il nous a révélé toutes les paroles de l'Écriture et par le Saint-Esprit, il nous a conduits dans toute la vérité. Et il le fait encore, il continue encore à le faire. Si maintenant je fais cette remarque, exprimant la douleur qui en fait nous touche tous, me touche et nous touche tous, c'est qu'à l'intérieur du message, il y a beaucoup de différentes directions. Dans une seule ville en Afrique du Sud, c'était Durban, il y a 11 différentes langues. 11 langues qui sont parlées dans cette région et 4 langues qui, tout à fait officielles, sont exprimées et utilisées dans tout ce qui concerne les formulaires, la télévision et les documents. Mais malheureusement, dans la même ville, dans une même ville, dans la même ville là-bas, il y a 28 différents groupes. 28 dans une même ville. Et cela à l'intérieur du message. Et ça, c'est une douleur qu'on ne peut pas supporter. Toujours de nouveau, des frères apparaissent et toujours avec des révélations particulières. Ils veulent expliquer des choses. Ils ont des interprétations et tout cela amène de la division. Mais nous croyons qu'avant le retour de Jésus-Christ, tous les véritables croyants seront qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et avant cela, on ne peut pas s'attendre à ce que la dernière effusion du Saint-Esprit ait lieu. Dieu ne va jamais déverser son esprit sur une confusion et un désordre et sur une division, mais seulement sur l'Église épouse qui, par la parole, est sanctifié et par l'Esprit conduit dans toute la vérité. Et c'est pour cette raison que nous avons aussi, quand, même si nous sommes faibles dans le corps, mais avec une voix forte, nous prêchons la parole de notre Seigneur qui demeure éternellement. J'ai tout un nombre de versets bibliques que je me suis noté qui parlent de ce que la séduction telle qu'elle a commencé dans le jardin d'Éden jusqu'à dans l'Apocalypse 22 au verset 7 jusqu'au verset 10, telle que cette séduction est décrite dans la Bible. Elle est décrite dans toute la Bible. Nous avons une introduction, reçu une introduction pour montrer comment est-ce que c'est important de demeurer dans la parole de la vérité, de ne pas accepter des compromis ou bien d'accepter ne serait-ce qu'une seule interprétation, prêter l'oreille à une seule interprétation. Celui qui écoute une interprétation sans résister, sans rejeter, se rend coupable de ce qu'il écoute. Nous savons tous que dans Genèse 3, du verset 3 jusqu'au verset 19, nous avons la description de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'adversaire vint d'une manière agréable. Il l'a remis la parole en question, et cela dans une, il a attiré les gens dans une discussion, et c'est toujours comme ça, attirer les autres dans une discussion et diviser. Et qu'est-ce qui s'est passé? La suite, le résultat, ça a été la chute, le péché, la mort. Et peut-être que je devrais le lire cela dans Apocalypse le chapitre 20. Ici il est écrit complètement à la fin que le séducteur, Satan, ensuite, à la fin, sera jeté dans les temps de feu. Chaque séduction, chaque interprétation de l'Écriture est l'œuvre du diable, sans considérer par qui est-ce que le diable parle, par qui est-ce que le diable écrit. Tout ce qui ne va pas d'écriture en écriture, tout ce qu'on ne peut pas lire dans la Bible, vient du diable. Dieu est seulement dans sa parole. Ici, à la fin du temps, cela va arriver. Il est écrit dans Apocalypse, le chapitre 20, à partir du verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils vont ensemble. Ils vont tous ensemble. Le diable, la bête et les deux autres, donc le diable et les deux autres vont ensemble. Ils forment un groupe. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils vont ensemble. C'est leur place là-bas. Ce qui est grave, c'est seulement que tous ceux qui ont été séduits par eux seront aussi dans les temps de feu. Seront aussi là-bas, là où le séducteur original Satan sera, tous ceux qui l'a séduit seront aussi là-bas. Tous ceux qui se tenaient sous son influence seront là-bas où il est. Tous ceux qui se tiennent sous l'influence de Dieu vont aussi être là où notre Seigneur est. Et c'est pour cette raison que Jean écrit, nous sommes dans le véritable, dans son Fils, Jésus-Christ. Et il est la parole, il est la vie éternelle. Dans Ésaïe, le chapitre 3, verset 12, il est écrit, Ésaïe, chapitre 3, au verset 12,
« Oh,
mon peuple !» Verset 12, la deuxième partie du verset 12, « Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils ont rendu le chemin inaccessible dans lequel tu dois marcher. » Il corrompt la voie dans laquelle tu marches. Dieu, lui, il a préparé un chemin sur lequel nous devons marcher. Et ensuite, il a dit, mon peuple, pas un autre peuple, mais mon peuple, il s'agit du peuple de Dieu. Mon peuple, ceux qui te conduisent, ceux qui sont devant toi, qui te prêchent la parole, ils sont en train de t'égarer. Et ils rendre le chemin sur lequel tu dois marcher inaccessible. Maintenant, ici, nous comprenons la promesse. Voici, je vous envoie mon messager devant ma face. Qu'est-ce qu'il fera? Il préparera le chemin. Il le rendra accessible. Les scribes et pharisiens ont corrompu la voie de Dieu. Ils l'ont rendue inaccessible. Ils ont même fermé la porte du ciel, comme notre Seigneur l'a dit. Ils sont pas eux-mêmes entrés et ils empêchent tous les autres aussi d'entrer. Et ensuite, notre Seigneur dit, dans Matthieu chapitre 11, au verset 9, concernant Jean-Baptiste, il parle et il dit qui est-ce qu'il était et quelle parole s'est accomplie par son ministère. Bien aimés frères et sœurs, ou bien en lui, c'est très très important que nous puissions sonder les Écritures pour voir quels sont les chemins que Dieu a eus dans le passé avec son peuple, pour pouvoir alors savoir comment est-ce que son peuple est avec son, comment est-ce que son chemin est avec son peuple aujourd'hui. Et comment est-ce que Dieu marche avec nous aujourd'hui? Jérémie 23, verset 13, B. Jérémie 23, verset 13, B. Ils ont prophétisé par le nom de Baal et ils ont égaré mon peuple. Si déjà le monde entier est égaré, comme on l'a lu dans Apocalypse, alors on ne peut pas changer les choses. Mais le peuple de Dieu n'a pas le droit d'être égaré. Le peuple de Dieu a été déterminé pour être conduit par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité et être sanctifié et marcher dans la parole de la vérité et être trouvé en elle quand notre Seigneur reviendra. Même la prophétie n'a pas eu lieu au nom du Seigneur, mais au nom de Baal. Oui, qu'est-ce que une prophétie qui n'est pas apportée au nom du Seigneur doit avoir
à faire parmi le peuple de Dieu. On peut même continuer à lire qu'ils ont prophétisé eux, de leur propre chef, de leur propre chef. Ils ont parlé de leur propre chef et ils ont servi à rien au peuple de Dieu, mais ils ont même fortifié les iniquités, les ouvriers d'iniquité dans ce qu'ils faisaient. Ézéchiel 13, verset 10. Ézéchiel 13, verset 10. Ici, il est dit, ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Aujourd'hui, le monde entier et tout le monde religieux parle de paix et de salut. Ils disent en disant salut, salut. Hein, quand on pense à la dernière annonce du Vatican, ils ont dit que c'est seulement en relation avec l'Église de Rome que tous les autres peuvent expérimenter et recevoir le plein salut. Représentez-vous cela devant les yeux. Imaginez-vous cela. Et c'est peut-être raison que tous doivent revenir dans le sein de la mère. Toutes les églises filles doivent revenir dans le sein de la mère pour que elles puissent recevoir le salut de l'Église catholique. Nous n'avons pas besoin du salut de l'Église catholique. Nous avons besoin du salut de Dieu. Le salut de Dieu qui en Jésus-Christ, notre Seigneur, a été accordé à l'humanité, mais comme cadeau qui doit être reçu de tous. C'est peut-être raison que nous prêchons de cette manière et nous apportons la prédication de l'évangile éternel qui sauve l'âme, l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'importance est mise sur cette phrase. Il n'y a pas d'autre salut qu'en dehors du nom dans lequel Dieu nous a accordé le salut. Et ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le prophète Michée, chapitre 3, verset 5, nous lisons. Michée 3, verset 5. Ainsi parle l'Éternel contre les prophètes qui égarent mon peuple. Oui. Il faut qu'on puisse d'abord le recevoir de tout notre cœur et laisser cette parole parler à notre cœur. Des prophètes avaient été déterminés et envoyés par Dieu pour révéler au peuple de Dieu la volonté de Dieu, pour apporter au peuple de Dieu la volonté de Dieu et ramener le peuple de Dieu à Dieu et à sa parole. Les prophètes avaient été utilisés par Dieu. C'était un tuyau par lequel Dieu parlait lui-même, car Dieu a toujours révélé d'abord sa parole aux prophètes et leur a dit, par exemple, où est-ce que c'est écrit? Michée aussi, vous connaissez tous les Saintes Écritures, ou bien alors Amos 3, verset 7, Dieu ne fait rien. Amos 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans d'abord avoir révélé ses mystères, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7, et ensuite Dieu doit dire ici, tel que c'est écrit, ainsi parle l'Éternel contre les prophètes qui égarent mon peuple. Nous lisons dans Matthieu 24, verset 4. Matthieu 24, verset 4. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Personne. Très important. Personne. Il faut que de nous tous et dans le monde entier, cela soit reçu de tout notre cœur. Seulement la parole de Dieu doit être notre lampe sur notre sentier et une lumière sur notre chemin. Si ta parole n'avait plus toute sa valeur, où est-ce que ma foi doit être ancrée et fondée? Pour moi, il ne s'agit pas du monde, mais de mettre ta parole en pratique. Ensuite, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, cette parole qui est connue de nous tous, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, séduction au commencement, séduction jusqu'à la fin, jusqu'à que toute l'humanité devienne le sacrifice de la séduction. Mais ce qui restera, ce sera seulement la troupe des élus à qui Dieu pouvait se révéler, avec qui Dieu pouvait parler et qui a la crainte de Dieu dans son cœur et qui respecte cette parole pour croire qu'il y a la crainte de Dieu dans son cœur pour pouvoir respecter et croire chaque parole telle qu'elle est écrite et respecter le contexte dans lequel le verset est écrit. C'est ainsi que ici nous voyons ce que les scribes pharisiens ont voulu faire à notre Seigneur. Cela est écrit dans Matthieu 27, verset 63, alors que Matthieu 27, verset 63, alors que les scribes pharisiens désignaient notre Seigneur de séducteur, et cela était une douleur. Et ici est le point. Tous ces menteurs et ces trompeurs et ces séducteurs ont persécuté les vrais prophètes et ils ont même désigné notre Seigneur de séducteur. Vous pouvez le lire ici dans Matthieu 27 à partir du verset 63, que les hommes, même notre Seigneur autrefois, ont désigné notre Seigneur de séducteur. Alors que eux-mêmes, ils étaient ceux qui séduisaient, et que eux-mêmes, ils n'ont pas cru la parole pour leur personne, ils l'ont pas reçu pour leur personne, mais ils ont rejeté le Seigneur, duquel il est écrit qu'il vint chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais cela ne suffit pas encore. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, et cela nous ramène au message duquel en fait il s'agit. 2 Corinthiens, chapitre 6, ici nous avons, n'est-ce pas, l'appel à sortir de l'église épouse, l'appel à sortir des élus. Et c'est justement dans ce chapitre que les serviteurs de Dieu sont désignés par séducteurs et trompeurs. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 7 et 8. 2 Corinthiens chapitre 6, d'abord le verset 7 et 8. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme séducteur, quoique véridique, comme séducteur aux yeux des scribes pharisiens et des scribes et des pharisiens, mais véridique devant Dieu, véridique dans la parole, véridique dans la prédication. Verset 9. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé. Oui, Paul a aussi porté de la tristesse, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres. Et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et ensuite, à partir du verset 14, vient la partie importante pour nous maintenant, c'est-à-dire l'ordre de sortir et de se séparer de toute iniquité. Et ici au verset 14, 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, avec les incrédules, avec les infidèles, avec les incroyants, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport? Ici nous avons un verset très important. Et nous devons avec cela aller dans Matthieu 7, verset 23. Matthieu 7, Verset 23, où le Seigneur, n'est-ce pas, rejette les ouvriers d'iniquité, ceux qui faisaient des miracles, et les désigne comme ouvriers d'iniquité. Et ensuite, nous devons aussi prendre cette parole et aller dans 2 Thessaloniciens, où il est parlé de l'homme d'iniquité, en tant que l'homme de l'iniquité au singulier. Sur cela, en fait, Martin Luther a écrit un exposé très puissant, très important. Nous voulons revenir ici dans Matthieu 7, à partir du verset 23, dans le résumé de ce qui a été dit, de ce qui sera dit à ceux que le Seigneur devra rejeter, qui avait beaucoup à énumérer comme miracles et de grandes choses qui se sont passées dans le ministère. Mais il leur dit ici, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les charismatiques sont dans le même enseignement, que ce soit sur la divinité, baptême d'eau ou autre chose. Ils sont dans le même enseignement et tous sont sur le même chemin. Et regarde à Rome, et si nous avons été très attentifs en lisant, nous pouvons même dire qu'il y en a même dans leur exposé, il y en a qui dans leur exposé, ce qu'ils disent, pourrait sortir de la bouche d'un prédicateur pentecôtiste. Quelques passages ont été sortis de ce que le Vatican croit. Et parfois même un prédicateur pentecôtiste ne pourrait pas mieux prononcer les choses que ce qu'ils disent au Vatican. Pourquoi ? Pour que du premier jusqu'au dernier, tous reçoivent l'impression que ça, c'est voulu par Dieu. Et revenez tous et ensuite, nous allons voir comment les choses vont continuer. La manière de prêcher est comme les prédicateurs pentecôtistes, etc. Mais pour nous, nous devons respecter la parole de Dieu et la grâce de Dieu qui consiste à reconnaître le dernier message de l'heure qui contient l'appel à sortir et la préparation. Nous devons prêter notre oreille à ce message et que le monde entier puisse l'écouter. Nous donnons seulement raison à Dieu et nous restons dans la parole de Dieu. Et nous avons par exemple, et c'est de ça qu'il s'agit en fait avec nos frères qui se sont éloignés des Écritures, mettent la Bible de côté et par exemple prétendent que le retour du Seigneur a déjà eu lieu et ils ne savent même pas qu'en enseignant cela, pour toujours, ils se mettent du côté de l'Antichrist. Je vais vous le lire. Aujourd'hui, par exprès, j'ai avec moi apporté la Bible en anglais, la Bible anglaise dans laquelle cela est écrit dans l'exposé en anglais comme aussi en allemand, dans la première épître de Jean, le chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4. Ici, nous avons, au verset 2, l'expression suivante. 1 Jean, chapitre 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Ça, c'est le passé. Cela a eu lieu. Cela est accompli. La parole est devenue chair. Le Fils de Dieu est né et est venu dans ce monde. Mais ensuite, dans 2 Jean, dans 2e épître de Jean, dans 2 Jean, au verset 7, il est écrit, 2 Jean, verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ comme celui qui apparaîtra dans la chair future, comme celui qui apparaîtra dans la chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Ici, ça doit être écrit au futur. C'est comme ça que c'est écrit aussi dans la Bible anglaise. Dans cette édition, je le lis. Peut-être que tous les frères du monde entier peuvent aussi le lire en anglais, au cas où ils connaissent, ils ont la même traduction King James. Vous pouvez écouter directement en anglais pour ceux qui comprennent l'anglais. Dans la deuxième épître de Jean, au verset 7, il va lire maintenant en anglais. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ. Donc c'est écrit au futur. Ils ne déclarent pas Jésus-Christ qui apparaîtra dans la chair. Ici c'est le point. Tous les frères qui dans le message prétendent que Jésus-Christ, que le Seigneur en 1963 est déjà revenu, sont possédés du diable. Ils ont le même esprit que l'antichrist a. Et ils n'ont rien d'autre que de la séduction et de la tromperie parmi le peuple de Dieu. Le même Jésus qui est monté au ciel corporellement reviendra de la même manière telle qu'il est monté. Et c'est pour cette raison que ces versets bibliques sont importants. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour de tels versets bibliques qui nous revêtent d'autorité divine et nous représentent l'absolu de la parole de Dieu devant les yeux, montrant que de tels hommes qui enseignent que Christ est déjà revenu et que le temps de la grâce, le trône de la grâce est devenu trône de jugement et que le Seigneur, maintenant, pendant plusieurs années, est en train, comme ça, doucement de descendre et quelque part, pour être manifesté. Non, la Bible dit que sa venue aura lieu en un clin d'œil, en une seule heure. Et c'est peut-être la raison qu'il est écrit. Personne ne connaît ni le jour et l'heure. Jour et l'heure, il n'est pas écrit que personne ne connaît la génération dans laquelle il reviendra, ou bien le mois dans lequel il reviendra. Non, il est écrit jour et heure. Et avec esprit, j'ai apporté 16 versets bibliques. C'est ça la dernière fois, je les ai. J'ai écrit rapidement, j'ai parlé un peu de cela. Ce sont 16 versets qui directement parlent du retour corporel de Jésus-Christ. Rend témoignage directement de son retour corporel. Et que tous les frères qui prêchent la parole dans le monde entier puissent écouter. Il est écrit à chaque fois le mot parousia. À chaque fois le mot parousia. De la même manière, j'ai 16 versets bibliques que j'ai laissé sortir où des apôtres étaient venus dans un endroit, par exemple ici, Actes des apôtres, chapitre 8, au verset 15. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 15. Ceux-ci, après leur venue, après leur arrivée, après leur parousie chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. 16 versets bibliques en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. 16 versets bibliques où des frères, ou bien alors ici, Actes des apôtres, 13, ou bien pour les 2-3 versets, et il leur prêchait après leur arrivée, et il leur prêchait après leur parousie, la parole de Dieu. Ici, en grec, le même mot parousie est écrit. Après qu'ils étaient arrivés dans l'endroit, ils ont prêché la parole. Actes des apôtres 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église. Après leur parousie, après que personnellement, corporellement, ils étaient arrivés. Pas une révélation, pas un enseignement, pas une illusion, mais arriver personnellement, corporellement, et ensuite convoquer l'Église. Tous ces versets, nous les avons fait sortir de l'ordinateur des Saintes Écritures. 16 d'ici et 16 de là. Et tous est en accord parfait. Par exemple, si ici il est écrit dans Matthieu 24, au verset 3, Et quel est le signe de ton avènement? Verset 3. Quel est le signe de ta parousie? Matthieu 24, verset 3. Et il y a plusieurs directions qui se font appeler l'enseignement de la parousie. Et prétendent que Christ est déjà venu. Il est déjà un esprit ici présent. Non, ce sont des esprits antichrist. Que tous les frères dans le monde entier l'écoutent. Nous ne pouvons pas faire de compromis devant Dieu. Celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ corporellement reviendra et que nous le verrons tel qu'il est, c'est écrit dans 1 Jean 3, et que nous serons transformés à son image, est sous un esprit antichrist, est sous l'influence de l'esprit antichrist. Et ici, il est écrit encore, Matthieu 24, à partir du verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement, la parousie du Fils de l'homme. Amen. Nous avons tous, pour cela, nous avons tous les versets bibliques. Nous ne prétendons pas, nous ne disons pas n'importe quoi. Nous lisons les Écritures. Nous pouvons aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Nous qui sommes restés vivants jusqu'à la venue du Seigneur, jusqu'à la parousie, la venue du Seigneur, l'avènement du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4. Qu'est-ce que ces frères-là veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Avec quelle raison ils se sont infiltré dans l'église qui a été appelée à sortir? Avec quelle raison? Avec quel droit? Sous une fausse influence infiltrée parmi le peuple de Dieu. Leur enseignement. Le temps est passé. Est fini pour tout ça. Maintenant, c'est l'heure de Dieu. Le temps est là. Où la parole de la vérité est la seule direction à suivre. Et tout ce qui n'est pas biblique et n'est pas biblique ne vient pas de Dieu, et ce qui n'est pas vrai et réellement tout ce qui n'a pas son origine dans l'Écriture est un mensonge. Et je le répète encore une fois, 2 Jean, le verset 7, car beaucoup de fausses doctrines, on entend beaucoup parler de fausses doctrines, mais ici ces fausses doctrines sont bien décrites. 2 Jean 7, car plusieurs séducteurs, en allemand, car plusieurs faux donc enseignements séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ, qui bientôt apparaîtra corporellement. Ça, c'est l'esprit séducteur et antichrist. Et vous savez, à quel point est-ce que l'apôtre Jean est allé? Vous savez à quel point il est allé? Lisons, nous voulons aller aujourd'hui à quel point il est allé. Aujourd'hui, nous voulons... Lisons avec moi à partir du verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas ce que par le fruit de votre travail, ce que vous avez obtenu par le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ensuite, sur le verset 9 et le verset 10, très important. Comme un marteau de la parole qui frappe et qui, comme une épée de l'esprit, qui pénètre jusqu'à la moelle épinière et partage tout. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a point Dieu. Il a de l'illusion, de la fantaisie, il a de l'imagination, mais il n'a pas Dieu, il n'a pas la vie, il n'a pas Dieu. C'est écrit ici. Toute personne qui va au-delà et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. On ne peut pas faire de compromis, ce n'est pas possible. Comment est-ce que Dieu peut se mélanger? Ce n'est pas possible. Il n'a pas Dieu, une telle personne n'a pas Dieu. Et ensuite, il continue ici. Celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils. Alléluia. Celui qui demeure dans l'enseignement du Christ. Et ensuite, suit le marteau au verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet enseignement, cette doctrine, l'enseignement disant que Jésus-Christ, qui est monté corporellement, qui après sa résurrection, avec ses disciples, a mangé et a bu, et qui pendant 40 jours est resté avec eux, et qui ensuite les a pris avec lui en Béthanie, et a détendu ses bras sur eux. Et selon Luc 24, au verset 50 et 51, les a bénis et est monté au ciel en les bénissant. Alléluia. Le même Jésus reviendra. C'est ainsi que c'est écrit, de la même manière. C'est écrit dans Actes des Apôtres, au premier chapitre, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Et c'est ainsi que nous croyons, que nous le croyons par conviction de tout notre cœur. Donc, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Pourquoi pas? Parce que vous le soutiendrez en le saluant. Vous le soutiendrez. Vous, et il pensera en lui-même. Il se sent accepté, reçu. Il pense qu'il y en a aussi d'autres qui acceptent son enseignement. Celui qui le salue se rend coupable. Il est écrit ici, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Là, il ne s'agit pas de dire comme ça, « Oh, bien-aimé frère !» Non, non, droite, justice est justice, vérité est vérité. Et qu'est-ce qui est écrit? Qu'il n'y a aucun mensonge qui pourrait avoir son origine dans la vérité. Vérité est toujours demeurée, vérité a toujours été vraie et restera vraie. Mensonge n'a jamais été vrai, est toujours une interprétation et restera interprétation jusqu'à la fin. Donc, pour tous nos frères, et cela dans le monde entier, que une fois pour toutes, cela soit dit. Que les Saintes Écritures nous donnent des informations sur tout, des informations détaillées sur tout, d'une manière que nous avons l'enseignement parfait et plein sur tous les différents sujets. Bien sûr que c'est très douloureux pour moi. Je regarde toujours en arrière, à 40 ans, dans le ministère du Seigneur, oui, en tout, à peu près 50 ans, dans le ministère du Seigneur, et ensuite, la propagation de l'évangile merveilleux, la prédication de la parole de Dieu, en raison d'un appel divin, et ensuite, la douleur d'entendre, de voir quel désordre est causé par des frères qui eux-mêmes n'ont pas un appel au ministère et une révélation de la parole de Dieu, mais ils font que penser être quelque chose. Ils pensent être quelque chose. Non, bien mes frères et sœurs, nous remercions le Seigneur de ce que il appelle lui-même l'Église à sortir et que dans sa parole, il la sanctifie. Dans le sang de l'agneau, il la lave. Dans la nouvelle alliance, elle sera trouvée. Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous. Et disons les choses librement et ouvertement. Dieu ne nous a pas fait sortir de tout ce désordre et cette confusion pour encore une fois nous conduire dans une autre confusion et dans un autre désordre. Non, Dieu nous a fait sortir sous cet ordre, à partir de maintenant, ne touchez à rien d'impur. Et ensuite, c'est seulement comme ça, ensuite seulement que vous serez mes fils et mes filles et que je serai votre père. Donc, acceptons tout et nous devons le considérer au travers des Écritures, le ramener dans la parole et disons les choses ouvertes. On n'a pas le droit de prendre un verset et de l'utiliser contre un autre. Je me suis aussi noté cela. Par exemple, celui qui va dans Jean 13, verset 27, et qui lit, là notre Seigneur s'adresse à Judas et lui dit, ce que tu as l'intention de faire, fais-le bientôt. Et celui qui réellement lut dans Luc 10, verset 37, celui qui lit dans Luc 7, verset 37, adressé à un docteur de la loi, va et fait la même chose. Mais cela est écrit dans tout un autre contexte. Ce qui a été dit à Judas n'a rien à voir à faire dans le sens et la signification avec l'autre. Mais cela pouvait arriver à de telles personnes de rassembler des versets qui n'ont rien à voir à faire l'un avec l'autre, s'ils n'ont pas la révélation. Si le Seigneur dit à Judas, va,
va ou bien alors fais bientôt ce que tu as à faire. Ça, c'est une chose. Mais c'est tout à fait une autre chose. Car Satan était rentré en lui. Il avait été déterminé à trahir. Et ça aurait été mieux pour lui qu'il soit jamais venu au monde. C'est ainsi que les Écritures le disent. Les Écritures. Mais nous reconnaissons que Dieu a un plan de salut et que cela devait être ainsi. Et ensuite, revenons à ce qui, doit être dit. Notre devoir devant le Dieu Tout-Puissant, c'est de prêcher rien d'autre que la pure vérité et de ne pas et d'utiliser les citations de Frère Branham dans l'équilibre, jamais les sortir de leur contexte, mais les laisser là où elles sont écrites. J'ai déjà dit cela ici. Celui qui laisse une prédication telle qu'elle a été prêchée, telle qu'elle est écrite, n'aura aucun problème. Mais celui qui lit des brochures où différents sujets ont été sortis, il sort des citations ici et là, et avec toutes ces citations des différentes brochures, ils font une brochure. Alors, ils font tout. Alors, ils pourront dire, va et toi aussi fais la même chose. Et ensuite, alors, des choses terribles ont lieu. Non, non, nous devons ramener tout aux Saintes Écritures. Ramener tout à la parole de Dieu et avant toute chose, telle que nous insistons en disant, c'est fausse doctrine. Et représentez-vous cela devant les yeux. Il y avait quelqu'un qui était devant moi et il me disait que le Seigneur est déjà revenu. Et ils se réjouissent, ils rient, ils se réjouissent. Il y en a un qui parle, l'autre sourit un peu et dit toujours Amen, et encore une fois Amen. Alors l'autre a dit encore quelque chose et l'autre encore répète et dit Amen et rit. Là, il n'y a plus rien à rire, là. Non, il n'y a plus rien de... Mais au moment où il s'agit de la vérité et de notre Seigneur, il n'y a plus de compromis à faire et plus de rire. Mais il y a le sérieux saint qui est annoncé et la parole de Dieu sépare. La parole de Dieu sépare. Mais ses frères, entre parenthèses, sont là pour amener une mauvaise réputation dans le message, sur le message, par leur interprétation. Mais laissez-moi dire la chose suivante. Dieu n'est pas dépendant de moi. Il n'est pas écrit que le messager ne reviendra pas sans effet, mais il est écrit encore que c'est la parole qui ne reviendra pas sans effet. C'est la parole qui produit l'effet, ce n'est pas le messager. Le messager qui puisse venir, qui puisse faire d'un messager ce qu'ils veulent. Ils peuvent le persécuter, le lapider, le tuer, le calomnier. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent d'un messager. Ce n'est pas le messager qui reviendra avec la parole, mais c'est la parole qui va revenir avec tous ceux en qui elle a pu produire l'effet pour lequel elle a été envoyée par Dieu. Alors tout aura servi à quelque chose. Tout ce qu'ils font avec moi, c'est une chose. Mais ce que la parole de Dieu produit comme effet en ceux qui la croient, c'est une autre chose. Et c'est peut-être raison que nous regardons simplement. Nous ne regardons pas à nous, non, nous ne regardons pas à nous-mêmes. Et nous ne regardons pas non plus à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais c'est vrai que je n'ai aucune place dans toutes ces directions. Et nous ne sommes pas reçus du tout par eux, et aussi toutes les différentes directions, quand il s'agit que cela soit contre moi, alors tous sont un seul cœur, une seule âme. Quand il s'agit que ce soit contre Frère Franck, tous sont un seul cœur, une seule âme. Mais ça n'a pas d'importance. Il est écrit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète encore une fois, même quand on dira toutes sortes de mal de vous, réjouissez-vous, car c'est la place que le Seigneur nous a accordée. Celui qui lit dans Hébreux 11, il pourra constater que les prophètes ont été aussi lapidés, persécutés et sciés. Mais le message qui leur a été donné produit encore aujourd'hui après la mort, l'effet pour lequel il a été envoyé. C'est la même chose avec Frère Branham et son ministère. Le Seigneur l'a repris. Mais la parole que le Seigneur lui a accordée, lui a révélée, le message que Dieu lui a accordé, va comme précurseur dans le monde entier maintenant, avant son retour, comme le Seigneur l'a dit autrefois. Et qu'il il utilise pour cela moi ou bien un autre frère, c'est en ordre. Je le répète encore une fois. pas le messager, revient avec le fruit, mais la parole merveilleuse, glorieuse, la parole de Dieu, que nous écoutons, que nous croyons, que nous recevons. La parole, c'est elle qui produit l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. C'est la même chose aussi dans notre temps. Résumons de quoi il s'agit. Nous allons le dire souvent. Il s'agit de l'appel à sortir de l'église épouse. Il s'agit de l'accord dans tous les différents points, l'accord avec Dieu et la parole de Dieu. Car Paul a écrit à Timothée et a dit: sois attentif à l'enseignement, à la doctrine, pour que il n'y ait pas de fausses d'enseignement qui apparaissent, mais que l'Église demeure dans le vrai enseignement qui nous a été confié dans les Saintes Écritures, transmis dans les Saintes Écritures. Et par cela, parviennent à l'unité de la foi. Et si nous allons encore dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, si nous voulons lire encore là, ici, Paul a montré l'Église comme corps du Seigneur. Pardon, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ensuite, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. D'un même esprit. Tous étaient abreuvés d'un même esprit, même. Bien, mes frères et sœurs, c'est notre souhait que réellement, en tant qu'Église, nous puissions arriver là où le Seigneur réellement puisse, que où l'Esprit réellement puisse, peut se répandre, et que nous puissions nous accepter les uns les autres, tels que nous avons été acceptés en Christ, et que nous puissions ainsi créer notre salut avec crainte et tremblement. Il ne s'agit pas du salut de l'autre, que chacun puisse, avec crainte et tremblement, recevoir son salut. Comme c'est écrit dans Philippiens 2, verset 12, c'est ainsi que nous atteindrons le but, et que ensuite dans 1 Corinthiens 12, les ministères, les dons et les actions nous sommes décrits dans l'Église, mais toujours le seul et le même esprit. Encore aujourd'hui, que cela soit dit à tous les frères dans le ministère, si Dieu vous a établi réellement dans l'Église, dans un ministère, alors le ministère sera toujours une bénédiction et servira à l'édification de l'Église, comme dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, cela est écrit, que Dieu a dans l'Église établi les différents ministères, et cela pour toujours, pour l'édification du corps de Christ. Et ensuite, cela arrive que l'enseignement divin fait en sorte qu'il n'y a pas de vent de doctrine qui peut souffler, mais que l'Esprit peut souffler parmi nous et agir parmi nous, et que tout a lieu sous la crainte, l'éducation et la conduite de l'Esprit. Donc le Seigneur aura une Église sans tache, sans ride. Il aura une Église qui est en accord avec lui et sa parole. Il aura une Église qui expérimenta l'achèvement, la perfection. Et dans toute la patience, nous voulons persévérer, car nous savons que le Seigneur achèvera son œuvre. Ce n'est pas possible autrement. Le Seigneur lui-même a pris toute la responsabilité pour l'achèvement de la perfection de son Église. Tel qu'en tant que créateur, il a
porter toute la responsabilité. Et encore aujourd'hui, la porte pour toute la création, c'est ainsi qu'il porte la responsabilité en tant que rédempteur pour tous les rachetés. Comme tête de l'Église, chef de l'Église, il porte la responsabilité pour tout le corps, pour toute l'Église. Notre devoir, c'est de le croire, de lui faire confiance et dans l'obéissance, de marcher dans ses chemins pour que sa volonté avec nous, par nous ait lieu et que nous puissions dire, comme le Rédempteur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. D'arriver dans cette position, plus de propre chemin, plus de propre volonté, mais détermine-toi seul tout. C'est ainsi que nous voulons, dans la foi, aller de l'avant. Ne soyez pas attristés et affligés. Nous sommes encore dans ce corps terrestre, c'est vrai. Mais ça, c'est une enveloppe que nous allons nous dépouiller. Il s'agit de notre cœur, il s'agit de notre foi, il s'agit de la révélation que Dieu, par sa grâce, a pu nous accorder. Terrestrement, les choses vont pour nous comme tous les autres hommes. Nous mangeons, nous buvons. La vie se déroule comme ça, comme tous les autres hommes dans le corps. Mais dans notre cœur, nous sommes liés avec Dieu. Et ensuite, notre Seigneur a dit, vous n'êtes pas de ce monde, tel que moi non plus, je ne suis pas de ce monde. Et ensuite, il dit, je vais au Père, je vais vous préparer une place, je vais à mon Père et à votre Père. Jean 20, verset 17. Et ensuite, il est écrit, je révélerai ton nom à mes frères, bien mes frères et sœurs. Nous avons des promesses merveilleuses qui déjà se sont accomplies. Et ce qui n'est pas encore accompli va encore s'accomplir. Nous pouvons nous attendre à cela. Et tel que nous l'avons aussi lu, les séducteurs ont rendu le chemin inaccessible. Même s'ils prophétisent qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais un vrai homme de Dieu est légitimé à prêcher la vraie parole de Dieu. Ne pas dévier ni à droite ni à gauche, mais rester au milieu, dans l'équilibre, dans la parole de Dieu et ordonner tout dans la Bible. Et c'est ainsi que ça accomplira. Et avec cela, nous arrivons à la fin. Ce qui est écrit dans 2 Jean. Dans 2 Jean, ici il est écrit au verset 3, et peut-être que nous devrions lire le verset 1 avec la deuxième partie du verset 1. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, qui habite en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. Pas seulement que nous écoutons, pas seulement une vérité que nous écoutons, mais qui habite en nous, qui demeure en nous, qui est en nous. Père, toi en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un. Qui ont connu la vérité et ensuite, qui à cause de la vérité, qui demeure en nous et qui sera parmi nous pour toute éternité. Je voudrais bien encore dire là-dessus, oui, pour toute éternité. Pour toute éternité. Aussi certain. Nous sommes en Dieu, pas en nous. Nous sommes certains en Dieu, pas en nous. En lui, qui est lui-même la vérité. En lui, qui est lui-même la parole. En lui, nous avons la certitude jusqu'à dans toute éternité. Quand le séducteur sera jeté dans le temps de feu, que plus rien ne sera de tout ce qui existe encore maintenant, aujourd'hui. Nous serons dans la gloire auprès de Dieu et nous nous réjouirons de l'œuvre accomplie de la rédemption. Et nous allons louer le sang de l'agneau, nous allons remercier Dieu pour sa parole et nous allons le remercier pour la révélation qu'il nous a accordée par son esprit et réellement dans toute la vérité nous conduit. Bien-aimés, à cet endroit et dans toute l'Europe et dans le monde entier, la vraie prédication est importante, est nécessaire. Il faut qu'elle soit apportée. Et cela dans le monde entier, partout, dans tous les endroits et les églises. La vraie prédication est nécessaire. Et tous ceux qui sont de Dieu écouteront seulement la vérité. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit dans Jean 8? Vous n'êtes même pas capable d'écouter ce que je vous le dis, ce que je vous dis. Jean 8, je crois, verset 34. Ils n'étaient même pas capables d'entendre. Ils n'écoutent pas. Il y a vraiment des gens qui ne sont même pas capables, aussi dans notre temps. Ils ne veulent même pas écouter, rien. Ils sont déjà arrivés à la perfection. Je le répète encore une fois pour toujours. La grâce que Dieu nous a accordée dans la parole, de demeurer dans la parole et de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais de rester dans les Écritures et de respecter la parole et d'être conduit ainsi par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. De remercier Dieu pour ce grand privilège qu'il nous a accordé pendant ce temps. Tous, vous savez, nous avons la parole du Seigneur que nous avons acceptée, nous l'avons crue. Elle nous a été révélée par sa grâce. Seulement ce que les Écritures disent sur le retour du Seigneur, comment est-ce qu'il s'accomplira, ce qui aura lieu pendant ce retour. Tout est écrit dans la Bible. Ce qui est merveilleux, la plus belle chose est encore écrite dans 1 Thessaloniciens 4. Le Seigneur lui-même descendra dès que les trompettes retentiront et que la voix de l'archange se fera entendre. Le Seigneur lui-même, pas un enseignement, pas une révélation. Le Seigneur lui-même descendra. Et quand cela aura lieu, alors les morts en Christ, dans l'incorruptibilité, ressusciteront, comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens 15, un corps terrestre est semé, mais c'est un corps immortel qui ressuscitera. Et c'est ainsi que ce sera lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous, qui sommes encore ici corporellement sur terre, nous serons transformés en un clin d'œil et avec eux qui sont ressuscités, sortis des morts, nous serons enlevés dans les nuées, comme cela est écrit dans 1 Thessaloniciens 4. Qui est l'homme sur terre qui veut prétendre que tout cela s'est déjà accompli? Qui veut prétendre et être responsable de cela? Non, encore une fois, d'une telle prétention. Bien, frères et sœurs, que Dieu soit encore remercié pour cette parole éternelle, merveilleuse. J'ai encore une question. Aimez-vous la parole de Dieu? Aimez-vous la parole de Dieu? Oui, amen. Ça, c'est la liaison de Dieu avec nous, par la vraie parole. Dans la prière, nous nous adressons à Dieu. Mais par sa parole, c'est lui qui parle avec nous, directement. Tel que c'est par des paroles que nous entretenons. Nous entretenons les gens avec les autres. C'est comme ça que Dieu s'entretient avec nous, toujours seulement par sa parole. Et nous avons, dans la foi, reçu et compris tout cela, car ça c'était aussi la question de notre Seigneur. Avez-vous compris tout cela? Et les disciples disaient, oui, Seigneur. Et après, il a dit, alors, c'est ainsi qu'il est écrit, qu'il est semblable, comme c'est écrit, à quelqu'un qui prend de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Et c'est ainsi que nous prenons l'Ancien et le Nouveau Testament et nous garnissons la table du Seigneur devant la face de nos adversaires. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur, dans le temps de la grâce, nous a secourus et nous a exaucés, nous a fait grâce et nous a bénis et nous a agréés, nous a reçus et nous s'est révélé à nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous pourrions réellement dire, Dieu a fait de grandes choses en nous. Et nous lui donnons à lui seul l'honneur. Et pour cela, nous voulons maintenant nous lever pour le faire. Amen. Levons-nous et ensemble remercier le Seigneur. Frère Rousse, viens et remercie le Seigneur. Viens et remercie le Seigneur. Père Céleste,
Amen. Du hast geredet, mein Gott, und du redest bis in unseren Tagen noch. Ja. Wir preisen und rühmen deinen Namen.
Nous te louons, nous t'exaltons.
Wie sollten wir anders tun, Herr? Wir allein dir die Ehre, dass
nous ne pouvons rien faire d'autre. Nous te donnons à toi seul l'honneur et l'adoration, la louange, alléluia. Reçois l'adoration de notre cœur et de notre bouche. Que nos cœurs soient ouverts. Que nos bouches te confessent, car tu vis véritablement. Et bientôt tu apparaîtras et tu prendras les tiens auprès de toi. Comme ta parole nous le dit, comme nous l'avons entendu, nous t'adorons et nous louons ton Saint-Nom. Bénis ton peuple, que tous les cœurs le reçoivent dans le Saint-Nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur, exaltez son Saint-Nom, louez la puissance de ton sang, de sa parole et de son esprit. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ô bien-aimé Seigneur, remerciez le Seigneur. Remerciez. Nous te remercions pour ta parole, pour l'action de ton Saint-Esprit. Aie ton chemin parmi nous, dans notre cœur, dans tous les peuples, les langues et les nations. Bénis. 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 Alléluia. À toi, le Dieu Tout-Puissant. À toi, le Dieu Tout-Puissant. Soit la louange. Soit la louange et la reconnaissance. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Chantons ô c'est Jésus. Ô c'est Jésus. Je l'aime. Une fois encore en anglais. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, de cet exposé, Matthieu 13, avons-nous compris que le Seigneur, en tant que Fils de l'homme, sème la semence de la parole. L'adversaire vient derrière lui et utilise le temps où les hommes dorment et sèment sa propre semence. Remercions Dieu pour le grand privilège que la semence de la parole dans notre cœur a été semée. Et comme la matrice se ferme quand la semence rentre, c'est ainsi que notre cœur s'est fermé. Il ne peut plus avoir une semence étrangère qui pourrait trouver de la place dans notre cœur. Non, car la semence, la parole de Dieu qui demeure éternellement, a déjà pris tout notre cœur, tel que le Rédempteur était la parole devenue chair et est la parole devenue chair. C'est ainsi que nous sommes maintenant. La parole devenue chair. Toutes les promesses de la parole vont s'accomplir dans l'Église épouse. Dites Amen.
Amen,
Amen, Amen, Amen.
Alléluia.
Alléluia. J'entends encore Amen, Alléluia. Seigneur fidèle Dieu, toi Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le Dieu d'Israël, tu es notre Dieu, notre Père, tu es devenu notre Dieu et notre Père, et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici sont nos prières de reconnaissance et notre adoration. Bien-aimé Seigneur, nous t'avons compris alors que tu disais à la femme au puits, « Femme, je te dis, l'heure viendra et elle est déjà là, où ce ne sera plus à Jérusalem ou sur une sainte montagne, mais où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et dans la vérité. » Ô bien-aimé Seigneur, tu as accordé ta grâce. Tu as une troupe sur terre. Par le sang de l'agneau racheté, réconcilié avec Dieu, crucifié avec Jésus-Christ et ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Accorde ta grâce pour que Romains 14, versets 7 et 8, que personne ne vit pour lui-même et personne ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Que nous puissions vivre ou mourir, nous sommes au Seigneur. Ô grand Dieu, nous te remercions encore une fois ensemble. Alléluia. Et nous te demandons que tu puisses laisser luire ta face sur tout ton peuple, sur toute la terre. Bénis ce soir, particulièrement au Chili. Bénis partout, sur toute la terre, où des hommes ont écouté, ou bien même ont peut-être regardé. Bénis nos frères et nos sœurs sur toute la terre. À toi, nous remettons aussi la requête que le frère Schmitt a exprimée. Fais en sorte, Seigneur, que ta parole, au temps convenable et à l'heure convenable, aussi soit diffusée et écoutée des hommes. Tout, nous te le remettons entre tes mains et nous te remercions de ce que tu as déjà accompli toutes choses. Nous te remercions particulièrement de ce que tu nous as accordé, frère Rousse, aujourd'hui. Nous te remercions pour tous les frères qui servent le Seigneur dans la prédication et qui sont ici ce soir, aujourd'hui, bénis-les et sois avec eux. Bénis tous les frères dans le ministère, dans le monde entier. Nous te remercions pour cela dans le saint nom de Jésus. Alléluia.
Amen.
J'entends encore, prends ma main et conduis-moi.
Amen.
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 Amen.